du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus le Christ selon l'écrit de Matthieu, pour le troisième dimanche de l'Avent. Jean, le Baptiste, dans sa prison, a entendu parler des actions du Messie. Il lui envoie dire par ses disciples :
Es-tu celui qui vient, ou devons-nous attendre un autre ?
Jésus répond et leur dit :
Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient à nouveau, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds-muets entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent le message de bonheur. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi.
Tandis que ceux-ci s'en vont, Jésus se met à dire aux foules à propos de Jean.
Quel spectacle êtes-vous sorti voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous sorti voir ? Un homme aux vêtements luxueux ? Voici, ceux qui portent des vêtements luxueux vivent dans les palais des rois. Mais qu'êtes-vous sorti voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, qui préparera ton chemin devant toi. Oui, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean le Baptiste. Mais le plus petit dans le règne des cieux est plus grand que lui. Auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, il semble que ce troisième dimanche de l'Avent centre encore nos regards vers Jean le Baptiste. Mais c'est peut-être pas aussi évident que cela, et Jean n'est peut-être pas forcément le point de mire de ce texte.
Donc, où se trouve notre texte dans le récit de Matthieu ?
Eh bien, ce passage de Matthieu se trouve au début du chapitre 11. Les chapitres qui précèdent ont raconté l'enseignement du Rabbi Jésus, ce qu'on appelle, nous, le sermon sur la montagne, c'est-à-dire les chapitres 5 à 7. Puis, on a décrit ses actions, ce sont les chapitres 8 à 10. Alors, ses actions, quelles sont-elles ? Eh bien, Jésus a purifié un lépreux, il a guéri le serviteur d'un centurion romain, il a exorcisé des possédés, il a communiqué le pardon à un paralytique, il a réveillé de la mort la fille d'un chef de synagogue, il a redonné la vue à deux aveugles et la parole à un sourd-muet. Et Jésus ne cesse de parcourir ville et village pour livrer son message de bonheur et pour guérir. Et devant la détresse des foules, ces foules qui lui apparaissent comme des brebis sans pasteur, eh bien, Jésus implore son père de lui donner des ouvriers. Et alors, eh bien, c'est là où il envoie les 12 pour faire la mission. Et le chapitre 10 a rassemblé les consignes de mission et même l'avertissement de Jésus sur les risques que cette mission comporte. On se souvient, il leur a dit : Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et le chapitre 10, donc, va se terminer par un enseignement sur l'accueil : Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Alors, on a dit que notre texte se trouve au début du chapitre 11. Eh bien, avec le chapitre 11 et 12, il y a comme une espèce de tournant dans le récit. Jusqu'alors, donc, Matthieu a exposé ce que Jésus fait. Eh bien, maintenant, on va raconter toutes les questions qui se posent sur la mission qui est celle de Jésus. Et on va voir qu'il y a une forte opposition à cette mission. D'abord, les questions de Jean le Baptiste lui-même, et c'est notre passage d'aujourd'hui. Puis ensuite, au chapitre 12, ce sera les réflexions et la contestation qui vient des pharisiens et des scribes. Ils vont même jusqu'à, j'allais dire, pervertir même la personne de Jésus en cherchant à le présenter comme un possédé de Satan. Et enfin, il y aura les proches parents même de Jésus, Marie et sa famille. Et Marc nous dit qu'ils veulent se saisir de Jésus parce qu'ils pensent qu'il est un exalté et qu'il a perdu la tête. Eh bien voilà dans quel contexte se trouve notre récit. La question c'est, Jésus est-il vraiment le Messie que le peuple attend ?
Comment comprendre la question que Jean fait poser à Jésus ?
Eh bien, on sait que Jean se trouve maintenant en prison. Il est dans la forteresse de Machéronte. Le roi Hérode l'a emprisonné parce qu'il ne pouvait plus supporter les critiques de Jean sur sa conduite. En effet, le roi vit avec la femme de son frère. Mais Hérode permet quand même à Jean de recevoir ses disciples et Jean, qui a entendu parler de ce que Jésus fait, envoie des disciples vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui vient ou devons-nous attendre un autre ?» L'expression « celui qui vient », c'est une expression classique dans la Bible pour désigner le Messie. Alors, quelle était exactement l'attente de Jean ? Eh bien, la semaine dernière, notre récit nous en avait donné un aperçu. Le récit nous disait « Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient déjà dans sa main la pelle à vanner. » Alors qu'est-ce que veulent dire ces images de baptême dans l'Esprit Saint, dans le feu et de la pelle à vanner ? Eh bien, pour Jean, le Messie, c'est le juge. Le juge qui vient mettre de l'ordre au nom de Dieu. Il vient réaliser ce qu'on appelle le jour de la colère de Dieu. Dieu ne peut laisser, s'il est tout-puissant, impunis les malfaisants, il doit donc purifier le peuple de ces éléments infidèles. Et il ne peut pas non plus laisser indéfiniment bafouer sa gloire par les Romains, les puissances païennes, qui oppriment Israël, qui oppriment le peuple de Dieu. Pour décrire ce message de Jean, Matthieu avait fait appel à un texte d'Isaïe, qui annonçait, ces 500 ans avant Jésus, qui annonçait le retour victorieux des exilés, ces exilés qui avaient été déportés d'Israël vers Babylone. Cyrus permettait leur retour et le Seigneur Dieu était donc celui qui ramenait à Jérusalem. Le texte d'Isaïe au chapitre 40 disait ceci:
voici que le Seigneur vient avec force et son bras lui soumet tout.
Oui, voilà, le Seigneur vient avec force. Alors il faut préparer la voie du Seigneur, il faut rendre droit les sentiers de notre Dieu. D'ailleurs, Isaïe décrivait encore l'action du Messie que Dieu envoie pour juger les fauteurs de mal.
Sa parole est le bâton qui frappe le violent. Le souffle de ses lèvres fait mourir le méchant.
C'est donc la force de Dieu qui doit se manifester, qui doit se manifester à travers le Messie. Et Jean compare cette force à celle d'un paysan qui abat d'un coup de hache l'arbre stérile, ou bien encore d'un paysan qui bat son blé avec la fameuse pelle à vanner qui va séparer le grain de l'écorce et l'écorce sera brûlée. Le Messie qui vient doit donc traduire cette force de la puissance de Dieu, il va exterminer les mauvais, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens. Un autre texte biblique était évoqué aussi pour décrire la mission de Jean. C'est le texte du prophète Malachie que nous pouvons entendre, c'est au chapitre 3e.
Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il prépare un chemin devant ma face. Qui soutiendra le jour de son arrivée? Qui restera droit quand il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive du blanchisseur. Il siégera comme fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme or et argent.
Voilà, il s'agit donc de purifier, d'affiner, et cela avec toutes ces images, le fondeur, les images aussi du blanchisseur. On blanchissait le linge pour le rendre plus pur, plus blanc. Jean le Baptiste a donc sans doute longuement médité ces images d'un Messie roi victorieux. Et ce grand exégète qu'est Jacques Dupont écrit « Jean se considère comme chargé de préparer Israël au terrible jugement. Son exemple, sa parole veulent amener les pécheurs à se convertir et à échapper au châtiment éternel qui les menace. Mais ce qu'il apprend de la manière dont Jésus emplit sa mission, ne correspond absolument pas à l'idée qu'il se fait du jugement qui doit commencer bientôt. D'où l'étonnement que traduit sa question.
Comment Jésus répond-il à Jean ?
Eh bien, regardons cette réponse qui peut sembler étonnante, la réponse aux disciples de Jean.
Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient à nouveau, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds-muets entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent le message de bonheur.
À la question de Jean, lui demandant s'il est bien le Messie, Jésus semble ne pas répondre directement. Mais puisque Jean a entendu parler de ses actions, alors Jésus évoque les textes du prophète Isaïe, ces textes qui sont une description de ce que doit accomplir le Messie.
Les aveugles, les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds entendront. L'estropié bondira comme un cerf, et la langue des bègues sera claire. Les morts se réveilleront, et ceux qui sont dans les tombeaux se lèveront. L'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a consacré Messie. Il m'a envoyé porter le message de bonheur aux pauvres, panser les cœurs meurtris, proclamer aux prisonniers la liberté, aux aveugles le retour à la vue, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur.
On voit donc que tout ce que les chapitres 5 à 10 sont décrits se retrouve dans ces textes. La prédication aux pauvres, les guérisons des aveugles, les sourds-muets, le pardon donné aux pécheurs. Les actions de Jésus accomplissent donc bien ce qu'Isaïe avait décrit d'avance comme devant être les actions du Messie. Dans un autre passage, dans le récit de Luc, au chapitre 4, on se souvient que Jésus avait repris ce dernier texte d'Isaïe qu'on vient de lire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré comme Messie ». Eh bien, Jésus avait repris ça dans ce qu'on peut appeler son homélie à la synagogue de Nazareth. Et il avait arrêté le texte à l'annonce de l'an de grâce. Hein, il annonce une année de grâce de la part du Seigneur. Or, le texte d'Isaïe se poursuit en disant « Le Messie annonce aussi un jour de vengeance pour notre Dieu ». Eh bien, c'est intéressant de voir que Jésus a arrêté sa citation d'Isaïe et qu'il n'a pas parlé du jour de la colère, le jour de la vengeance de Dieu. Il a au contraire voulu mettre le phare, si on peut dire, sur l'an de grâce, le temps de la miséricorde et du pardon.
Que signifie la réflexion de Jésus « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi » ?
Oui, eh bien, l'expression, enfin le verbe « celui qui ne tombera pas » traduit le grec, et en grec, si on voulait utiliser simplement le décalque du mot, c'est « celui qui ne sera pas scandalisé ». Alors qu'est-ce que c'est que le scandale dans la culture juive ? Le scandale, c'est tout ce qui nous fait trébucher, ce qui est comme une espèce de piège dans lequel on tombe. Jésus souhaite que Jean ne se scandalise pas, qu'il ne tombe pas à cause du chemin qu'il prend pour accomplir sa mission. Peut-être que Jésus ne vise pas uniquement Jean d'ailleurs, mais enfin il le vise certainement. Alors qu'est-ce qui risque de faire tomber Jean ? Qu'est-ce qui risque de scandaliser Jean ? C'est pas le fait que Jésus se décrive comme le Messie. Au contraire, Jean lui-même a présenté Jésus ainsi à ses propres disciples. Il leur a dit, voilà, ça c'est celui-là est l'agneau de Dieu, le Messie. La difficulté de Jean vient de ce que Jésus comprend sa mission d'une manière tout à fait différente de l'idée que Jean lui-même s'en faisait. Au lieu du fort, du puissant, qui va déployer la vengeance et la colère de Dieu contre des pécheurs, Jésus ne se présente que comme la manifestation de la tendresse miséricordieuse du Seigneur à l'égard des pauvres et de tous ceux qui souffrent. Il est venu pour les pécheurs, non pas pour les juger, mais au contraire pour leur donner le pardon de Dieu. Le contraste est donc très grand entre la façon dont Jean voit sa mission et celle dont Jésus va l'accomplir. Est-ce que Jean, voilà l'interrogation de Jésus, est-ce que Jean va parvenir à admettre la révélation de l'amour de Dieu, un amour qui se révèle dans l'humilité et dans la faiblesse ? On se souvient qu'il y a déjà la réaction de Simon-Pierre devant l'annonce de Jésus qui lui dit qu'il doit souffrir, qu'il doit être arrêté, qu'il doit mourir. Jésus vient à ce moment-là de déclarer Simon heureux et inspiré par le Père parce que Simon lui avait dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et c'est alors que Jésus, acceptant dans le fond de se faire reconnaître par Pierre comme Messie, lui révèle l'aboutissement de sa mission qui est la souffrance et la mort. Et Pierre se refuse à une telle fin. Il ne voit pas du tout le Messie libérateur devant être arrêté et tué et mis à mort. Et alors Jésus, devant la réaction de Pierre, va lui dire « Tu mets une occasion de scandale » et il traite même Pierre de Satan. Ce n'est plus Dieu qui inspire Pierre, mais Satan. L'histoire de Jonas, aussi dans la Bible, est une bonne illustration de ce scandale que peut provoquer un Dieu trop bon. On se souvient que le Seigneur Dieu avait chargé Jonas d'aller prêcher à la ville païenne de Ninive, de prêcher la conversion. Et Jonas, pendant un premier temps, s'y est refusé. Il a peur de risquer sa vie. Ninive est une ville païenne et une ville pleine de péchés. Finalement, il s'y résout, il parcourt la ville en lançant son message, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Et voilà que Ninive, la ville de Ninive, les gens de Ninive se repentent et que Dieu n'exécute pas sa menace de la détruire. Et le livre de Jonas va nous dire
« Jonas en eut un grand dépit et se fâcha. Je savais en effet que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, longanime et riche en grâce, et te repentant du mal. »
Et Jonas est terriblement déçu de voir Dieu temporiser devant le mal et de ne pas se décider à punir les pécheurs. Dieu n'est-il pas trop bon ? Sa patience ne sera-t-elle pas un encouragement aux pécheurs qui ne peut alors décider de ne pas changer sa vie puisque Dieu est bon ? Au lieu du justicier redoutable que Jean présentait comme Messie, eh bien voilà que Jésus privilégie l'amour. Et Paul dira aussi dans une de ses lettres que ce Messie, plein de bonté, porteur de la miséricorde de Dieu, eh bien ce Messie a été un objet de scandale pour beaucoup de Juifs. Si Jésus mène un combat, ce ne sera que le combat de l'amour qui se propose humblement et sans utiliser la violence et la puissance.
En quoi ce scandale est-il grave?
Bien, ce scandale est grave parce qu'il fait tomber. Et qu'est-ce que cela veut dire? Mais il fait douter de Dieu, il fait ne pas communier au projet de Dieu. Et cela arrive parce que, dans le fond, on ne comprend pas vraiment ce que c'est qu'aimer. Je cite souvent ce philosophe Jean Lacroix qui, à mon avis, exprime bien ce qu'est l'amour dans cette définition. Aimer, c'est promettre et se promettre de ne jamais employer à l'égard de l'être aimé les moyens de la puissance. Et refuser toute puissance, eh bien, c'est s'exposer au refus, à l'incompréhension et à l'infidélité. La suite de notre texte va d'une certaine façon éclairer cet enseignement. Jésus va mettre en parallèle la grandeur de Jean et celle du plus petit dans le règne de Dieu. Et comment fait-il? Eh bien, il demande à la foule, « Quel spectacle êtes-vous sorti voir au désert ?» Et il va décrire le prophète et la grandeur de sa mission, mais il va le faire, c'est-à-dire, sous forme de contraste. Est-ce que c'est un roseau secoué, ébranlé par le vent que vous êtes allé voir? Sous-entendu, non. Jean est au contraire l'homme ferme, inflexible. Il traduit ce que Jérémie disait du prophète. Tu te lèveras, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble point devant eux. Voici que j'ai été établi comme une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Et voilà ce qu'était Jean. Êtes-vous allé voir un homme aux vêtements luxueux? Dit Jésus. Ben non. Jean portait le vêtement de poil de chameau, qui était le vêtement des prophètes comme Élie. Et Jésus va même ajouter que Jean est bien plus qu'un prophète parce qu'il est le messager qui prépare immédiatement la voie du Messie. Parmi les humains, Jean est donc le plus grand de tous.
Comment s'explique que le plus petit dans le règne de Dieu est plus grand que Jean?
Oui, c'est une question qui n'est pas facile, mais on pourrait dire ceci. C'est ce que je propose. Dans sa fonction, dans sa mission de prophète, de précurseur du Messie, Jean est très grand. Mais la vraie grandeur de l'être humain n'est pas dans sa fonction. J'allais dire, elle est dans son être même. Et notre être, c'est d'être fils, fille du Père des cieux. On peut rapprocher cela d'un passage de Luc, où Jésus a envoyé ses disciples en mission, et ils reviennent tout exaltés de leur pouvoir. « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et qu'est-ce que Jésus leur répond?
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux.
Voilà. Et cela veut dire, les noms inscrits dans les cieux, vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes véritablement entrés dans la paternité de Dieu, dans son amour. Le règne de Dieu ne se trouve donc que dans l'amour, et l'amour ne se déploie que dans l'humilité. Aimer, se laisser aimer, c'est vouloir être par l'autre et pour l'autre, comme le dit si souvent François Varillon. Aimer, c'est se refuser à être plus grand que celui ou celle que l'on aime. On ne peut pas regarder de haut quelqu'un à qui on dit « je t'aime ». Je cite Varillon, « le surplomb du regard anéantirait l'amour ». Eh bien, quelle puissance d'amour! Ne faut-il pas à Dieu, lui qui est l'être infini, pour que l'amour en lui soit un amour sans condescendance? Et Jésus va nous révéler cette vraie grandeur de l'amour quand il lave les pieds des siens.
Lequel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or moi, je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert.
Oui, Dieu, celui qui est immensément grand et puissant, eh bien, ne va révéler sa grandeur que dans l'effacement de lui-même. Voilà ce qu'est la vraie grandeur de Dieu. Je ne résiste pas à citer Zendel pour retrouver ce texte dans le numéro de Nouveau Dialogue, le numéro 120, et c'est à la page 19. La grandeur, ce n'est pas de dominer, dit Zendel. Dieu n'est pas celui qui a le goût de l'esclavage. Dieu n'a pas de sujet. Dieu ne domine personne. La royauté de Dieu, c'est justement de nous toucher par sa liberté pour ne susciter de nous que notre amour. De nous toucher par sa liberté pour susciter la nôtre. C'est cela notre Dieu. Non pas une limite, non pas une menace, non pas un interdit, non pas une vengeance, mais l'amour agenouillé qui attend éternellement le consentement de notre amour. Exactement tout le contraire de ce qu'on imagine. On imagine les croyants comme de pauvres types qui ont peur, qui s'en remettent à une puissance indiscutable pour boucher les trous de leur impuissance. Le bouche-trou de tout ce que l'on ne sait pas, de tout ce que l'on ne peut pas. Alors cela fait un Dieu rabougri, un Dieu et un homme méprisable. Eh bien non, la grandeur de Dieu, c'est son humilité et c'est le lavement des pieds, nous dit Zandel, qui exprime le mieux cela. Cela rejoint les béatitudes. Les pauvres, les petits sont les plus proches du règne de Dieu. Pourquoi ? Mais parce que la richesse de l'argent, du savoir, du pouvoir risque souvent de nous éloigner du règne de Dieu. Elle risque de nous écarter de l'amour. Pour connaître Dieu, il faut donc approfondir ce que c'est que l'amour. Et voilà, je pense, pourquoi Jésus peut dire que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Il faut devenir fils de Dieu. Nul ne connaît le Fils sinon le Père, nul ne connaît le Père sinon le Fils. Ce proverbe qui a été cité par Jésus vaut bien sûr pour lui, mais il vaut aussi pour chacun et chacune de nous. Et terminons en évoquant la prière de Jésus, celle que nous connaissons, mais on n'en connaît pas beaucoup des prières de Jésus. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ce mystère de l'amour aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux tout petits. »
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Le numéro 256-4110. Vous pouvez aussi utiliser notre numéro de télécopieur 256-1106.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Le choix musical et enregistrement est de Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.